Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Madame à Paname, le podcast pour apprendre le français et découvrir la culture française. Je m'appelle Marion, j'habite à Paname et Paname, c'est le nom qu'on donne à la ville de Paris. Retrouvez la transcription de l'épisode, la fiche de vocabulaire expliquée, le quiz et toutes les activités dans l'abonnement premium du podcast disponible sur mon site www.madameapaname.com. Aujourd'hui, on va parler de crime. Je vais vous parler d'une histoire française terrifiante. C'est d'ailleurs probablement l'affaire criminelle la plus sordide, la plus horrible de l'histoire de Paris. Alors, je vous préviens, âme sensible, s'abstenir. Alors ça, c'est une expression pour dire que si vous êtes sensible, attention. Je vous préviens aussi qu'il va y avoir pas mal de vocabulaire nouveau lié à la justice et au crime. Vous avez la transcription et le vocabulaire expliqué dans votre abonnement podcast premium. Bon, cette histoire dont je vais vous parler, c'est l'affaire de la rue des Marmousets, un fait divers criminel qui aurait eu lieu au XIVe siècle à Paris. La rue des Marmousets, c'est une petite rue qui se trouve en plein cœur de Paris, sur l'île de la Cité. C'est vraiment très proche de la cathédrale de Notre-Dame de Paris et c'est tout à côté du quartier latin, le quartier historique des étudiants où se trouvent toutes les grandes universités. Alors, si vous cherchez la rue des Marmousets aujourd'hui, vous ne la trouverez pas. Eh oui, attention, elle n'a plus le même nom, mais elle existe encore. Elle a juste été rebaptisée, renommée rue Chanoinesse. Mais c'est bien la même. Et c'est une rue qui est très charmante et touristique aujourd'hui, avec des petits magasins et cafés très mignons. Et c'est juste à côté de la préfecture. Alors, attendez, petite parenthèse, je vous raconte l'histoire. Mon mari est colombien, on habite à Paris, et l'année dernière, il a obtenu sa nationalité française. Donc, il a deux nationalités maintenant. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que la préfecture où se déroulent les cérémonies de naturalisation, donc les cérémonies d'accueil dans la nationalité française, est rue des Ursins. C'est juste à côté de la rue Chanoinesse dont je vais vous parler. Et il y a dans cette rue l'un des plus beaux cafés de Paris. Ça s'appelle Au Vieux Paris d'Arcole. C'est une vieille maison avec un arbre immense sur toute la façade qui fleurit au printemps avec de belles fleurs violettes. C'est vraiment sublime et c'est assez unique à Paris. C'est assez touristique, bien sûr, mais c'est vraiment très beau et je vous conseille vraiment d'y aller si vous êtes à Paris. Tout ça pour vous dire que le jour où mon mari a obtenu la nationalité française, on est allé au café Au Vieux Paris d'Arcole, rue Chanoinesse, juste avant la cérémonie parce qu'on était très en avance et j'adore cette rue. Et je ne savais pas, avant de travailler sur cet épisode de podcast, que dans cette même rue si charmante, si poétique et agréable, s'étaient déroulés des crimes abominables. Et la plupart des touristes et des Parisiens se promènent dans cette rue sans savoir ce qu'il s'y est vraiment passé. C'est vraiment difficile d'imaginer qu'une histoire si horrible se soit déroulée juste ici. Et pourtant, remontons le temps. Nous sommes dans les années 1380, en plein Moyen Âge. Alors, la date exacte n'est pas connue, mais on estime que l'affaire s'est probablement déroulée en 1384. Vous allez me dire « Ah non, c'est trop vieux, ça fait longtemps, des histoires horribles depuis le Moyen-Âge, il y en a eu plein. » Mais attendez, vous allez comprendre pourquoi cette histoire macabre est restée célèbre. Pour situer un peu le contexte, nous sommes dans la période de la guerre de Cent Ans, un conflit qui oppose le Royaume de France au Royaume d'Angleterre et qui dure une centaine d'années. À ce moment-là, c'est le roi Charles VI qui règne sur la France. Depuis quelques mois, plusieurs étudiants disparaissent du jour au lendemain dans le centre de Paris, sans laisser de traces. Ils ne donnent plus aucun signe de vie. Bizarre. Mais bon, à cette époque, la criminalité est très élevée à Paris. Alors, on s'imagine que ce sont des truands ou des bandits qui s'attaquent aux pauvres étudiants. Des truands et des bandits, ce sont généralement des personnes malhonnêtes, des voleurs ou des malfaiteurs. Alors oui, ces étudiants disparus ont fait une mauvaise rencontre, c'est sûr. Mais on est alors bien loin d'imaginer ce qu'il s'est réellement passé dans la rue des Marmousets. Ces disparitions inquiétantes d'étudiants se répètent pendant plusieurs années, et c'est inexplicable. Des rumeurs circulent, les étudiants évitent la zone autant que possible à cause de sa mauvaise réputation. Mais cela n'empêche pas les disparitions de se poursuivre. Aucun étudiant disparu ne réapparaît. En 1387, quelques années plus tard, on découvre l'horrible vérité et on retrouve enfin les coupables. Comment ? Grâce à la police ? Un détective ? Un voisin qui aurait vu quelque chose ? Non, rien de tout cela. La plus sinistre affaire criminelle de Paris est résolue grâce à un chien. Eh oui. En 1387, un énième étudiant disparaît. Mais voilà, il a un chien. Et pendant 2 jours entiers, le chien de l'étudiant disparu aboie sans relâche, sans s'arrêter, juste devant l'atelier d'un barbier de la rue des Marmousets. Un barbier, à l'époque, c'est la personne qui coupe les cheveux et qui coupe la barbe des hommes. C'est ici, dans les shops, dans la boutique du barbier, que son maître, l'étudiant, est entré et a été aperçu pour la dernière fois, 2 jours plus tôt. Il n'en est jamais ressorti. Étrange. Vous vous en doutez, un chien qui aboie et aboie et aboie encore pendant 2 jours et 2 nuits, cela attire l'attention. Les voisins deviennent fous à force d'entendre l'animal aboyer jour et nuit. Ils essaient de le faire fuir, mais le chien revient. C'est complètement inhabituel comme comportement. Il se passe quelque chose d'anormal. Alors, les voisins alertent les forces de l'ordre. Ils appellent la maréchaussée. La maréchaussée, c'est l'ancêtre de la police. La maréchaussée arrive devant le bâtiment. Au rez-de-chaussée, il y a une boulangerie très connue, d'ailleurs, à l'époque, parce qu'en plus de vendre du pain, le boulanger vend aussi du pâté en croûte, une sorte de viande qui attire de nombreux clients parce que la viande est rare à l'époque. Bon. Il faut monter les escaliers pour arriver dans la boutique du barbier qui est au premier étage. Et en entrant dans l'atelier du barbier, la maréchaussée fait une découverte macabre et sanglante. Le barbier est immédiatement arrêté et menotté par les forces de l'ordre. Et le voisin du barbier, le boulanger, qui habite juste en dessous, est lui aussi embarqué par la maréchaussée. Après un interrogatoire musclé, brutal, les deux hommes finissent par avouer. Ils passent aux aveux. Ils finissent par dire la vérité. Toute la vérité. Et ils sont tous les deux coupables et complices de crimes atroces. Mais quoi ? Raconte, vous allez me dire. Qu'est-ce qu'il se passait vraiment derrière les portes de la boutique du barbier ? Attention, je vous préviens, c'est maintenant que les choses deviennent vraiment effroyables. En entrant dans la boutique du barbier, il n'y a personne pour les accueillir, mais la maréchaussée découvre de nombreux outils qui sont habituellement utilisés par les bouchers pour découper de la viande et démembrer les carcasses. Étrange. Ils ont un mauvais pressentiment. Ils avancent dans la boutique avec précaution. Et là, horreur. La maréchaussée tombe nez à nez avec le barbier. Et ils le surprennent en train de dépecer, donc de découper le cadavre d'un homme. Il est pris en flagrant délit. Oui, c'est l'étudiant, le malheureux maître dont le chien fidèle aboyait depuis 2 jours. Mort, assassiné, dans des conditions épouvantables. Plus tard, pendant l'interrogatoire, le barbier et le boulanger qui habitaient l'étage en dessous auraient avoué qu'ils s'étaient associés pour un projet démoniaque, celui de vendre aux clients du pâté à base de chair humaine. Oui, comme la viande était très rare à l'époque, le barbier attirait ses victimes dans sa boutique. Il les assassinait et utilisait le corps de ses victimes pour faire du pâté en croûte et les vendre aux clients qui, en pensant manger de la viande d'animal, mangeait en réalité des parties des étudiants disparus. C'est du cannibalisme. Pourquoi ont-ils fait ça? C'est sadique, c'est terrifiant. Simplement pour augmenter les revenus et faire du profit, donc pour gagner de l'argent. Les forces de l'ordre sont abasourdies en écoutant les aveux du barbier et du boulanger. Ils n'ont jamais entendu une histoire pareille. On nage en plein délire. Et je vous rappelle que nous sommes en plein Moyen-Âge et en pleine guerre de 100 ans, hein. Donc c'est pour dire. Ils racontent. Et voilà comment ils se sont organisés. Le barbier attirait ses victimes et leur proposait de leur couper les cheveux et de leur tailler la barbe. Une fois à l'intérieur de la boutique, le barbier installait ses victimes, il préparait son matériel, puis il massacrait ses clients. Il les découpait en morceaux, il les hachait et les jetait à travers une trappe, une petite ouverture dans le sol qui donnait directement sur l'atelier du boulanger, en dessous. Pratique. Ensuite, le boulanger récupérait la viande hachée pour faire de la farce. La farce, c'est un mélange de viande, d'herbes et d'épices pour faire des pâtés en croûte. Et c'est ensuite le boulanger qui vendait les pâtés et les deux hommes se partageaient les profits. L'histoire choque tout Paris. Surtout que cette boulangerie a connu un succès fulgurant grâce à ses pâtés. Le boulanger en vendait beaucoup. Et d'après la légende, même le roi Charles VI en raffolait. Et dites-vous que cette affaire a duré 3 ans. 3 ans pendant lesquels le barbier et le boulanger géraient leur entreprise infâme et vendaient du pâté de chair humaine. C'est à peine croyable. D'après le témoignage de Jacques Dubreuil, un homme religieux client de la boulangerie, la viande des pâtés était effectivement beaucoup plus tendre, plus délicate que celle des autres animaux. Le boulanger et le barbier sont tous les deux condamnés à mort. Alors, au Moyen-Âge, la guillotine n'existait pas, et leur mort est aussi atroce, à l'image de leur crime. Ils sont tous les deux brûlés vifs, donc brûlés vivants, sur la place publique, enfermés dans des cages de fer. C'est un châtiment, une punition très populaire au Moyen-Âge. Est-ce que la maison du boulanger et du barbier rue des Marmousets existe encore aujourd'hui? Non. Après cette histoire ignoble, la maison a été rasée, détruite donc, et remplacée par une petite pyramide commémorative. Elle servait à se souvenir des victimes et prier pour elles. Alors, sachez qu'aujourd'hui, on n'a aucun document d'époque qui atteste la véracité, la vérité de cette histoire. Donc, officiellement, c'est une légende. On n'en est pas sûr à 100%. On ne sait pas trop si l'histoire est vraie, si elle a été modifiée. On n'a pas de document d'époque. Peut-être qu'un jour, on en retrouvera dans les archives, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc ça reste une légende, une histoire qui s'est surtout transmise à l'oral et les premières traces écrites que nous ayons de cette histoire sont arrivées beaucoup plus tard. Mais cette histoire d'un barbier qui tue ses victimes et qui les jette par une trappe pour en faire des gâteaux, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Un film du réalisateur Tim Burton avec Johnny Depp, vous voyez? Eh oui, le film Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, sorti en 2008 et inspiré de l'affaire de la rue des Marmousets. Alors, je dis bien inspiré parce que le contexte n'est pas tout à fait le même, mais vous allez le voir, il y a énormément de similitudes. Je vous raconte l'histoire du film. Dans le film de Tim Burton, c'est l'histoire de Benjamin Barker, un barbier londonien qui est resté presque 15 ans dans une prison en Australie, loin de sa ville natale, Londres, donc. Pendant son arrestation, on lui a tout pris, sa femme, Lucie, et sa fille, Johanna. Et pendant toutes ces années, il n'a eu qu'une seule chose en tête, retourner à Londres et se venger du juge qui l'a condamné, le juge Turpin. Bon, un jour, ce Benjamin Barker réussit à s'évader de la prison en Australie. Il s'échappe et il réussit à rentrer à Londres. Et quand il arrive à Londres, pour éviter d'être reconnu, il prend le pseudonyme de Sweeney Todd. Il modifie aussi son apparence pour cacher sa véritable identité. Comme il est barbier de profession, il décide de reprendre une petite boutique qui se trouve, par hasard, juste au-dessus d'une boulangerie. C'est la boulangerie de Madame Nelly Lovett, une femme un peu bizarre qui vend des tourtes. Une tourte, c'est un gâteau, une tarte salée. Malheureusement, la boulangère apprend à Sweeney Todd que Lucie, sa femme, a fait une tentative de suicide à cause du juge Turpin et qu'en plus de ça, celui-ci garde Johanna, donc la fille, en captivité dans le but de l'épouser. Bon, il n'y a rien qui va dans cette histoire. Donc, Sweeney Todd, aka Benjamin Barker, vous vous rappelez, celui qui a été en prison en Australie et qui revient, est fou de rage et jure qu'il tuera le juge de ses propres mains. Ça, c'est l'histoire. Les jours passent et puis un jour, un de ses rivaux, un autre barbier, rend visite à Sweeney Todd. Il reconnaît Benjamin Barker et le menace de révéler son identité au juge. Sweeney Todd prend son rasoir de barbier et égorge son rival. Mais Il panique. Comment va-t-il se débarrasser du corps ? Madame Lovette, la boulangère, secrètement amoureuse de Sweeney Todd, lui propose de l'aider à cacher le corps en le transformant en chair à pâté. Bon, c'est aussi une bonne chose pour elle parce que, justement, elle a besoin de trouver une nouvelle recette pour relancer les ventes de ses tourtes, donc de ses tartes salées. Comme vous pouvez l'imaginer, ces nouvelles tourtes font sensation, elles ont beaucoup de succès. Les habitants du quartier en sont fans. Alors, si ça marche, pourquoi arrêter ? Sweeney Todd commence à tuer ses clients et Madame Lovette les cuisine. Bon, je ne vous raconte pas la suite de l'histoire, je garde un peu de mystère pour ceux qui n'ont pas vu le film ou si vous voulez le revoir, mais vous voyez, il y a beaucoup de similitudes entre l'affaire du diabolique barbier Sweeney Todd et l'affaire de la rue des Marmousets à Paris. Est-ce que vous aimez les affaires criminelles ? C'est la première fois qu'on m'en propose une dans le podcast. Je vous mets un sondage sur Spotify. Donnez-moi votre avis. Dites-moi si vous aimez et je pourrai vous en raconter d'autres si vous voulez.